Donc je suis Jérôme Bouvier, B-O-U-V-I-E-R, je suis journaliste et donc j'ai fait la plupart de mon parcours à Radio France, à France Inter, à France Culture, à Radio France Internationale. J'ai également été médiateur des radios de Radio France et j'organise les Assises internationales du journalisme qui se tiennent à Tours et à Tunis en tant que président d'une association qui s'appelle Journalisme et Citoyenneté. Voilà.
À partir de quel âge avez-vous décidé de devenir journaliste ?
Bon, je devais avoir, je ne pourrais pas vous le dire précisément, mais en gros, je devais avoir 15 ans. Voilà, ça s'est imposé comme une évidence. Vous avez quel âge ? Vous avez
13 ans,
oui, donc un peu plus âgé que vous. Oui. Mais je ne sais pas très bien pourquoi ça s'est imposé, parce que j'étais pas en contact avec des journalistes, je ne connaissais pas les journalistes, il n'y a pas de journalistes dans ma famille. Mais assez vite, ça s'est imposé comme une idée évidente, parce que ça me paraissait aussi être un métier de liberté, alors que les métiers qu'on envisageait pour moi étaient des métiers plus classiques et moins libres.
Qu'est-ce que la radio vous a apporté ?
Alors plein de choses, plein de bonheur déjà, parce que la radio c'est un média magnifique où juste avec la voix, comme ça, juste avec votre magnétophone, on peut échanger, on peut partager, on peut raconter ce qui se passe depuis une cabine téléphonique, on peut, quand je démarrais il n'y avait pas les portables, donc on allait dans une cabine téléphonique pour raconter quelque chose en direct, et donc raconter la vie des autres, aller au-devant des autres, voilà, leur demander ce qu'ils vivent, quelles histoires ils vivent, dans quel pays ils vivent. Donc c'est un énorme bonheur que de pouvoir accéder à tout un tas de curiosités possibles. Et puis le plaisir du micro aussi, parce que de faire vivre une histoire uniquement au son de la voix, c'est un grand plaisir. Et puis ça a évidemment apporté aussi parfois des difficultés, parfois des douleurs, parce que rien n'est simple dans un métier. Mais globalement, si je devais répondre à votre question, la radio ne m'a apporté pratiquement que des bonheurs, parce qu'on peut créer avec quasiment rien. Alors que la télévision, c'est, même si c'est moins vrai maintenant, mais quand j'ai démarré, c'était lourd, il fallait des caméras qui étaient très lourdes, il fallait des éclairages, il fallait beaucoup de techniques, et puis il y avait surtout cette image qui faisait qu'on ne regardait plus que l'image et on écoutait moins ce que vous disiez, alors que la radio, on ne se soucie pas de savoir si vous avez tel ou tel vêtement, telle ou telle chevelure, tel ou tel style, ce qui compte c'est juste la voix, donc c'est bien.
Vous le disiez tout à l'heure, la radio c'est une forme de liberté. Ouais. Est-ce que ça peut l'être par rapport au fait qu'on ne vous voit pas justement et que du coup vous avez plus de facilité à vous exprimer ?
Oui, tout à fait. C'est ce que j'essayais de dire là. Vous l'avez parfaitement bien résumé. Je pense que c'est une liberté. Si on était l'interview que vous faites là, si on la faisait devant une télévision ou devant des caméras ou même un smartphone, eh bien aussitôt on se dirait tiens, pourquoi. Il a une moustache blanche, et pourquoi vous avez une mèche qui ceci, et pourquoi votre pull cela, tiens, moi, c'est lui, j'aurais mis plutôt un pull machin. Et donc plein de questions qui n'ont rien à voir avec le fond de ce qu'on se dit, mais qui ont à voir avec la forme. La télé, c'est quand même très important pour ça. Et donc, du coup, ça dénature. Moi, je pense que ça vous est sûrement arrivé de vous dire, quand on regarde dans la télé, oh bah, comment elle est fagotée, celle-là, comment elle est habillée, comment voilà. Bon. Alors, et de ne pas écouter ce qu'elle disait. La radio, on ne se pose pas cette question-là. Alors, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui filment la radio, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais la radio, justement, offre effectivement cette liberté-là. Là aussi, la question du format, parce que en radio, vous pouvez être très court, comme sur France Info, par exemple, ou vous pouvez être long, comme moi, la radio, j'ai beaucoup travaillé, France Culture, on pouvait faire des sujets de reportage très longs. Alors évidemment, il y a peut-être moins de public qui l'écoute, mais c'est aussi un lieu de liberté pour ça.
Vous nous avez parlé tout à l'heure des violences vis-à-vis des journalistes. Qu'en pensez-vous de ces violences ?
Alors, les violences en France ou les violences sur les terrains de guerre ?
En France.
Ben, elles sont terribles. Enfin, je trouve que d'être dans un pays où des gens peuvent courir après les journalistes pour les taper, pour même leur faire mal, voire même tenter de les lyncher, simplement parce qu'ils sont journalistes. Je trouve ça très très grave, parce qu'il y a plein de reproches à faire aux journalistes, on a plein de défauts, on a plein de choses qu'on doit corriger, mais si on est dans une société où on est juste là à s'invectiver, à se lancer des insultes comme sur les réseaux sociaux, ou à dire bah, tiens, comme tu ne penses pas comme moi ou comme tu ne dis pas ce que je pense, eh ben, je te frappe. C'est quelque chose de très grave. Je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui qui doit tous nous préoccuper, vous comme moi, c'est qu'on est rentré dans un monde où, via les réseaux sociaux, de plus en plus, on accepte que les gens s'insultent. Je suis sûr que sur vos réseaux sociaux, dans vos communautés, eh bien, vous lisez des trucs, sale machin, sale machine, tu es qu'une... Hein, je suis sûr que vous lisez des choses comme ça. Et c'est pas acceptable. Il faut pas qu'on accepte qu'on se parle mal. Il faut pas qu'on accepte de... Voilà, j'ai lancé une consultation sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Et en disant, aux gilets jaunes, en disant aux citoyens, voilà, plutôt que de se taper dessus, si on se parlait. Et il y a des gens qui acceptent de se parler, mais il y en a, on a été noyés aussitôt sous des torrents d'insultes, je vous les répéterai pas ici parce que c'est que des gros mots, mais c'est terrible, quoi, de dire, on peut pas se parler tranquillement, normalement, et quand vous faites quelque chose au collège qui est pas bien perçu par une copine ou un copain, c'est pas logique de pouvoir se... pas acceptable de se faire insulter ou de se faire... Donc il faut qu'on tous on réagisse contre ça. Il faut dire non à la violence, je crois.
Vous parlez des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent faire plus confiance aux réseaux sociaux puisqu'ils ont plus de chances de trouver quelqu'un qui a le même opinion qu'eux sur les sujets d'actualité?
Alors, est-ce que le problème avec, quand on dit les réseaux sociaux, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a tout. Dans les réseaux sociaux, il y a des informations produites par des grands journaux, par Le Monde, les radios, les télés, et puis il y a aussi des choses qui émanent de simples citoyens, il y a des choses qui ont été purement et simplement fabriquées pour tromper, il y a des choses qui émanent de sites comme parodiques, comme le Gorafi, ou comme qui sont là pour faire rire, mais que les gens prennent au premier degré. Donc il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et le travail que nous avons tous à faire, chacun de nous, c'est que quand on ouvre notre smartphone et qu'on voit tout d'un coup des centaines d'infos qui nous arrivent via notre communauté, eh bien, de prendre 15 secondes pour s'interroger en disant, est-ce que c'est crédible? Quand on me dit, tiens, regarde, machin, plus c'est invraisemblable, généralement, plus ça nous attire, plus ça nous paraît bizarre, et plus on a envie de le partager avec ses copains. Et donc, avant que de relayer sur ses propres réseaux des informations qui vous paraissent bizarres, de prendre les 10 ou 15 secondes en disant, mais tiens, si je prenais le temps de vérifier, si je prenais le temps de tout lire, si je prenais le temps d'aller regarder sur un autre site, avant que de le rebalancer. Donc les réseaux sociaux, ça peut être le meilleur, parce que ça permet d'échanger entre nous. Ça peut être le pire quand c'est un échange qui est basé uniquement sur des fausses nouvelles ou des nouvelles qui ont pour but de faire mal ou de détruire. Donc c'est le pire et le meilleur. Mais après, c'est à nous, chacun d'entre nous, de décider ce qu'on en fait.
Ça me fait penser à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, qu'un journaliste, ça devait faire attention à ses sources. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben oui, c'est très important parce que qu'est-ce qui vous permet de bien vous informer c'est d'avoir des gens qui vous donnent des bonnes informations. Alors qu'un journaliste, il dépend de ses sources. S'il n'a pas de source déjà, le plus souvent, c'est les journalistes traitent des sujets alors qu'ils n'ont pas de source pour les aider. Donc ça, c'est le premier problème. Mais après, s'il a des sources qui le trompent, là, par exemple, j'étais en train de lire, quand vous m'avez abordé, j'étais en train de lire un article sur le fait qu'il y a une grande firme américaine qui s'appelle Monsanto, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui produit un pesticide qui s'appelle le glyphosate. Donc beaucoup de gens pensent que ce produit est extrêmement mauvais pour la santé. Et Monsanto paye des gens pour donner des témoignages qui disent le contraire, que non, il n'y a pas de menace sur la santé. Donc des journalistes qui se font informés par ces mauvais informateurs, par ces mauvaises sources, vont pouvoir dire des bêtises, mais surtout dire des choses qui sont favorables à ce que veut dire Monsanto, mais qui ne sont pas favorables à la santé de nous tous, parce que les pesticides, ce n'est pas une bonne idée pour notre santé, pour nos produits alimentaires. La question des sources, j'étais très étonné que vous posiez ces questions-là, parce que c'est comme une question un peu... professionnel, mais c'est une question très importante. Et vous devez aussi vous la poser quand vous recevez quelque chose sur votre communauté, vos amis sur Facebook, vos amis sur Instagram, je sais pas où, sur quel réseau vous êtes. C'est aussi vos sources. Interrogez-vous sur quelle est ma source. Est-ce que je le connais vraiment bien, cette personne qui me balance ça? Est-ce que je peux lui faire suffisamment confiance pour la transmettre à mon tour?
On termine par une petite question et ensuite... Donc déjà, quel conseil vous donneriez aux gens qui veulent se lancer dans le journalisme?
Quel conseil? D'abord, de se tenir le plus souvent possible au courant de l'actualité, de la suivre, de d'aiguiser sa curiosité et de le faire un peu dans tous les domaines parce que souvent on suit un peu les sujets qui vous passionnent et pas les autres. Donc le journaliste, ça suppose aussi qu'on aille regarder tous les sujets. Si vous n'êtes pas fanat de sport, il faut quand même vous renseigner un peu sur ce qui se passe dans le sport, il faut être un peu polyvalent. Et puis après, je vous dirais, parce que c'est un métier difficile, hein, c'est un métier qui change sans arrêt, qui économiquement va pas bien. Donc la plupart de ceux qui rentrent dans ce métier ont du mal à y trouver un salaire décent, et donc faut réfléchir à ça quand même. Et donc allez-y, n'hésitez pas si vous pensez que c'est ce métier-là que vous voulez faire et pas un autre. Si vous dites c'est ce métier-là ou bien un autre, faites plutôt l'autre.
Et donc, pour mener une bonne interview, est-ce qu'il faudrait plutôt prendre plusieurs points de vue différents pour mener un reportage ou une interview ?
Ben, vous faites ce que vous faites, là, vous faites une bonne interview, vous posez plein de questions, vous réagissez en fonction de ce que je dis, donc c'est ça une bonne interview. C'est effectivement, c'est multiplier les angles, mais c'est aussi faire en sorte que la personne que vous interrogez, d'abord, se sente en confiance, que ce ne soit pas un exercice de communication, et d'essayer de toucher à une certaine sincérité dans l'échange. Donc souvent quand il y a une interview, ben la personne interrogée fait un peu ça comme quoi, enfin en tout cas chez les politiques, chez les artistes, chez les chanteurs, etc. C'est difficile de trouver la sincérité parce que les personnalités intéressées sont surtout là pour vendre entre guillemets leur message. Après, quand il s'agit de simples citoyens, il faut gagner la confiance du citoyen et il faut qu'il se sente suffisamment à l'aise pour aller justement dire un peu quelle est la réalité de sa vie et sortir des caricatures de ce qu'elle peut dire sur les réseaux sociaux, mais pour aller au-delà. Donc il faut créer la confiance et empêcher la connivence.
Que pensez-vous du festival radio Longueur d'onde ?
Alors ben là, forcément c'est magnifique, c'est merveilleux. Non mais sérieusement, j'étais pas venu depuis 4-5 ans déjà, donc... Et je suis ravi d'abord que ça existe toujours et qu'il y ait un rendez-vous des amoureux de la radio et du son. On ne peut que s'en féliciter parce que dans les choses qui me ravissent, moi, j'ai fait, je vous l'ai dit, plus de 35 ans en radio et j'aurais pas parié que le podcast pourrait connaître le développement qu'il connaît aujourd'hui, parce que pour moi, le podcast, c'était surtout un moyen d'écouter en différé l'émission qu'on n'avait pas pu écouter en direct. Mais je pensais que son développement allait se limiter un peu à ça. Or, on voit bien que c'est autre chose qui est en train de naître, que c'est une capacité à créer d'autres propositions radiophoniques, d'autres univers, d'autres récits. Et donc il y a plein de possibles avec la radio. Et la révolution numérique ne met pas tout ça par terre, alors que dans la presse papier, la révolution numérique tue beaucoup de choses. Et c'est pas le cas en radio, donc faut en profiter.
Merci beaucoup. Bon, on doit vous laisser. Alors, merci pour cette interview. Au revoir.
C'est belle.